Tu nous as choisis parce que ton Père t'en a fait cadeau. Et Seigneur, ce soir, tu veux nous dire que nous ne sommes pas ton plan B. Nous sommes ton plan principal parce que tu as prié pour nous et parce que nous continuons à prier pour que tu sois avec nous. En Christ, nous t'en prions, en ton nom. Amen. Amen. Voilà, je laisse la parole à Daniela.
Bonsoir. J'espère que vous avez passé une belle journée. La mienne était bien chargée, mais je suis très reconnaissante à Dieu de pouvoir être ici ce soir et réfléchir avec vous. Mais avant de reprendre Jean 17, cette prière sacerdotale, j'aimerais vous raconter une histoire. En fait, c'est une histoire racontée par Ernest Hemingway. Je ne sais pas si cet auteur vous dit quelque chose, mais on a lu cette histoire au lycée, donc il y a pour moi plus que 20 ans. Mais j'ai gardé cette histoire à la mémoire et ça parle d'un petit garçon qui vit aux États-Unis, mais qui vient de déménager de l'Europe via les États-Unis et il tombe malade. Et le père constate qu'il a de la fièvre. On va chercher un médecin. Le médecin arrive et le médecin dit: voilà, la température de ce garçon, c'est 102 degrés. Et le petit garçon, qui a l'habitude de penser en Celsius, degrés Celsius, il commence à paniquer. Et pendant toute la journée, il attend la mort. Parce qu'il sait, on meurt à partir de 43, 44 degrés. Et là, il a 102. Et le papa, il est insouciant. Donc le papa, il essaye de lui parler, etc., de lui lire des histoires. Mais ce garçon, il regarde le plafond. Il est dans un autre univers. Et finalement, le papa comprend. Il lui explique la différence entre degrés Celsius et Fahrenheit. Et l'histoire se termine bien. Mais notre professeur à l'époque nous avait expliqué que cette histoire présente un peu les murs invisibles entre nous, ou les malentendus. On vit ensemble, c'est le père et le fils, on vit sous un toit, mais quand même il y a des malentendus. Des ruptures, des blessures peut-être qui empêchent de comprendre l'autre, des défis de la communication, des séparations. C'est difficile de communiquer, mais on vit ensemble. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'un mot que vous allez découvrir dans Jean 17. Je vais lire les versets où il se trouve et je pense vous allez deviner de quel mot il s'agit. Donc, Jean 17, je vais prendre le verset 11. Première occurrence. Je ne suis plus dans le monde, et c'est le Christ qui parle. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde. Et moi, je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Un comme nous. Ensuite, les versets 20 à 23. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ce soir, je parle du fait d'être un. Et vous avez vu que cette expression est utilisée à plusieurs reprises dans cette prière sacerdotale. Être un dans un monde où tout le monde est un peu solitaire, où on se sent mal compris de temps en temps. Et je pense que le fait d'être mal compris ou de ne pas être compris crée une solitude atroce. On peut vivre en groupe, on peut vivre avec d'autres et se sentir complètement seul. Et là, le Christ nous invite à être un, comme lui est un avec son Père. Et là, j'aimerais prendre un terme qui se trouve dans l'Ancien Testament, pour réfléchir sur ce fait, être un. Et c'est le mot hébreu « echad ». Et ce mot se trouve tout au début de l'Ancien Testament. Parce qu'au début, Dieu crée l'humanité de façon relationnelle. Et au début, le relationnel est fonctionnel, ça fonctionne. Les relations sont fonctionnelles. Et le texte dit dans Genèse 2, verset 24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Et là, vous avez le terme « echad ». Ils deviennent un. Ils sont un. L'homme garde sa personnalité. La femme garde sa personnalité. Leur identité, mais ils sont un. Et pas seulement sur le plan sexuel, aussi sur le plan émotionnel, spirituel, mental. Il y a une unité. Le relationnel fonctionne. Et d'ailleurs, le dernier verset du chapitre 2 dit que tous les deux sont nus, mais ils n'ont pas honte. Donc là, on peut se rencontrer sans avoir peur d'être blessé. On est un, tout en gardant son individualité. Parce que chaque être humain est unique, créé à l'image de Dieu, en toute liberté. Personne n'a été créé pour être l'esclave de l'autre, ou pour être bafoué par l'autre, ou dominé par l'autre. Ils sont un au début. Et ce même mot est repris pour parler de Dieu. Et là, c'est le deuxième verset que j'aimerais lire ou citer, c'est Deutéronome 6, verset 4. Et c'est un verset qui est très très important pour les Juifs, c'est le Shema Israël. Deutéronome chapitre 6, verset 4. « Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est echad, et un. » En d'autres termes, Dieu lui-même, il vit dans des relations. Il n'est pas seul. Et nous sommes créés à son image. Donc, chacun d'entre nous a été créé pour le relationnel. Maintenant, le relationnel est difficile. On est d'accord. On a peur. Et j'ai envie de dire que le mal ou le péché, c'est l'interruption du relationnel, ou c'est un relationnel dysfonctionnel ou difficile. Parce que là, il y a un petit virus qui a tout bousculé. Mais malgré cela, l'être humain continue d'avoir ce besoin d'appartenance. Imaginez-vous sur une île tout seul pour le reste de votre vie. Pour une semaine, ça va. C'est peut-être même du repos, mais après une semaine, on se sent seul. On perd un peu son âme, sa vitalité. Donc tout être humain a ce besoin d'appartenance. Appartenir à quelqu'un, à un groupe, à Dieu finalement. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et ce qui est intéressant dans le texte en hébreu, si vous prenez la dernière lettre du premier mot, Shema, en hébreu, cette lettre est en gros dans le texte hébraïque. Et c'est le Aïn. Et le dernier mot de ce verset, et là aussi, la dernière lettre est en gros dans le texte hébraïque. C'est le Dalet. Et ça donne un nouveau mot. Et. Et et, c'est le témoin. Le témoin. En d'autres termes, Dieu souhaite des témoins qui sont à son écoute. Écoute Israël. Et après, le verset qui suit, qui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force ou abondance. En d'autres termes, écouter le Seigneur mène à l'amour. Et pour pouvoir aimer quelqu'un, il faut l'avoir écouté, il faut le connaître, pour pouvoir l'apprécier profondément. Donc tu aimeras le Seigneur. Maintenant, je reviens dans le Nouveau Testament. Parce que là, il y a le Christ, qui est un avec le Père, qui était dépendant de son Père. Et j'ai envie de dire, parce que le Christ était connecté avec son Père, il était libre. Parce que le Christ ne s'est jamais défini à travers le regard de l'autre. Il avait ce besoin d'appartenir. Il était un être humain. Il avait ce besoin d'être relationnel, de vivre en communauté. Mais j'ai envie de dire qu'il était seul, lui aussi. Qui l'a compris, qui l'a pris au sérieux. Mais malgré cela, il avait ce lien d'appartenance à son Père. Et la peur d'être blessé par nous ne l'a pas empêché d'avancer, de vivre. Et dans ce monde brisé, nous avons, je pense, quelque chose à apprendre de lui. Mais malgré tout cela, malgré tous les défis, peut-être aussi malgré cette solitude, il était là et il a prié pour nous, comme nous l'avons dit tout à l'heure, pour nous, pour cette communauté qui allait croire en lui, une communauté des disciples. Et le rêve de Dieu, c'est que cette communauté soit un, unie, le lien entre nous. Et dans ce monde brisé, c'est presque un miracle. Regardez, vivre l'unité dans la diversité, on le dit très facilement. Mais chacun avec son bagage, chacun avec son éducation, chacun avec ses valeurs personnelles, sa perception du monde, ses présupposés, ses idées préconçues. Quelquefois, on se pose la question de savoir, mais dans nos églises, est-ce que nous réalisons ce rêve? Point d'interrogation. Est-ce que chaque membre est à l'écoute de ce Dieu qui est errate, qui est relationnel? La grande question. Mais le rêve du Christ, il est là. Il a été là à travers les siècles de l'histoire de l'humanité. Et je pense que nous sommes invités ce soir à réfléchir là-dessus. J'ai le besoin du relationnel et d'appartenir. Dans ma vie, j'ai décidé d'appartenir à l'Église adventiste, d'être chrétienne. C'était un choix dans ma vie, après une période plutôt dans le domaine agnostique. C'est un choix. Et en tant que pasteur, j'ai vu beaucoup de choses qui n'étaient pas très beaux. C'est vrai. Mais je vois le Christ qui reste à côté, qui n'a pas de plan B, absolument. Il travaille avec nous, avec nos prêches, nos failles, nos faiblesses. Mais chaque jour est une occasion de réfléchir sur ce rêve et de se dire, être un. Nous sommes un en Christ, malgré nos cultures différentes, malgré nos éducations différentes. Nous sommes là pour vivre cela. Et quelquefois, je me pose la question de savoir, mais le monde, qu'est-ce qu'il serait avec des chrétiens qui mettaient en réalité, en réalisation, cette unité, qui se disaient, moi, pour moi, ce qui compte réellement, ce n'est pas forcément mon petit monde égoïste, mais c'est le royaume de Dieu. Et je m'éclipse pour que ce royaume puisse devenir une réalité silencieusement dans mon cœur et dans ma communauté, sans perdre mon individualité et ma personnalité. Dieu veut quelqu'un, veut des êtres humains libres, libres. Mais je pense que le monde serait différent. Parce que regardez à quel point l'humanité cherche l'unité. On a voulu créer un village global. Mais ce rêve est difficile à réaliser. Internet nous aide un petit peu, oui. Mais l'humanité est fragmentée, déchirée. Particularisme partout. Mais ce soir, c'est vraiment une invitation de la part de Dieu, du Christ, à vivre cette unité, à être à l'écoute de ce Dieu pour apprendre à aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Et c'est un défi journalier. Et je sais à quel point on aspire à être réconcilié avec l'autre, à vraiment être en communion avec l'autre. Je sais à quel point les gens souffrent parce qu'il y a rupture, parce qu'il y a blessure. Et je termine avec une petite histoire qui s'est déroulée à Madrid, en Espagne. Il y avait un père qui était en rupture avec son fils. Pendant des années, ils ne se sont pas parlé. Pendant des années, vraiment, amertume, rancune, déchirure. Et un jour, ce père se dit, parce qu'il vieillit et il affronte la mort finalement, il se dit, je ne peux pas mourir sans m'avoir réconcilié avec mon fils. Et il met une annonce dans le journal principal de Madrid, une petite annonce en disant, Pedro, si tu lis cette annonce, merci de me pardonner et on va se donner rendez-vous à la place du marché à Madrid, à telle date, telle heure. Et le jour du rendez-vous, ce père se rend à la place à Madrid et il y a une foule de jeunes hommes qui s'appellent Pedro, en rupture avec leur père, mais soif d'être réconciliés. Ça montre à quel point on a besoin de vivre l'harmonie avec l'autre. Et on souffre si l'harmonie n'est pas là. Donc la prière du Christ est d'une actualité brûlante. Je prie qu'il soit un, parce que moi je suis un avec le Père. Donc unis au Christ pour partager et pour aimer. Et l'amour, elle naît parce qu'on est à l'écoute de Dieu. Et on devient un témoin après avoir écouté Dieu. Que Dieu vous garde. Amen.